Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 30 juillet 2023 et bon dimanche. On va faire le point sur ce qui s'est passé un peu sur cette semaine méga chargée. On va essayer de simplifier au plus court, au plus simple et au plus rapide pour parler de ce qui s'est passé un petit peu en Suisse, beaucoup dans le monde et pour voir où nous en sommes avec notre combat contre l'inflation et le fait que nous percevons toujours le marché comme étant facile, haussier. Et indubitablement haussier, puisqu'il ne veut pas baisser en aucun cas, en aucune condition. Ça fait un moment que l'on parle de correction à venir, que le marché serait mûr pour baisser, mais que nenni, rien à faire, ça continue de monter gentiment, mais sûrement. Alors on attaque tout de suite avec les banques centrales puisque c'était le gros point de la semaine. Les banques centrales ont donc toutes plus ou moins fait leurs annonces. La Fed, la BCE et la BOJ, c'est ce qu'on attendait cette semaine. Si on commence par la Fed, eh bien évidemment, on en a déjà parlé. La Fed a monté ses taux de 0,25% comme tout le monde l'attendait. Les discours post-annonce étaient plutôt, on va dire plutôt... positif, mais néanmoins, eh bien, on voit que les banquiers centraux, enfin que Powell et ses amis, continuent de surveiller attentivement ce qui se passe dans l'économie afin de savoir ce qui va se passer ces prochains temps. Donc, il n'exclut rien. En fait, il faut surtout pas commencer à croire qu'en septembre, il ne montera plus les taux. Oui, parce que là, il y a 2 mois avant le prochain meeting de la Fed. Ce sera le 20 septembre, le 19 et le 20 septembre. Donc, sur ces 2 mois-là, eh bien, il va surveiller les datas. Il y en aura une crâlée, évidemment, puisqu'il y aura 2 fois le CPI, 2 fois le PPI, 2 fois le PCE, etc., etc. Mais il va continuer à surveiller ça attentivement afin de savoir si l'inflation est vraiment vaincue. On a encore eu un dernier chiffre qui est sorti en toute fin de semaine, le PCE, le core PCE. Vous savez, ce fameux chiffre que la Fed adore. Et là aussi... on voyait que c'était un peu plus faible que les attentes, donc on continue à voir qu'un ralentissement économique, enfin un ralentissement de l'inflation et que finalement, eh bien, le combat de la Fed semble être gentiment gagné. Enfin, c'est ce que l'on arrive à dire de plus en plus, que le combat est gentiment gagné. Évidemment, il n'y a aucune certitude. On n'oubliera pas non plus au passage quand même que le pétrole est à 80-60. Regardez juste le chart à l'instant. Regardez le baril de pétrole là où il en est aujourd'hui. C'est juste spectaculaire. On est à plus de 80$. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'essence aux États-Unis n'a jamais été aussi chère que depuis le mois de novembre de l'année passée. Donc grosso modo, la dernière fois qu'on a eu une essence aussi chère, eh bien, on était plus ou moins là, dans cette zone ici. Alors vous voyez qu'on est à 83-84$. Et là, à aujourd'hui, à 90-18, 80-60, peu importe où on se traite à l'instant où je vous parle, eh bien, le baril est toujours à 80 et des poussières, mais par contre, l'essence, le prix final, est aussi haut que quand on était à 84. Donc encore une fois, vous avez le prix du baril qui est un peu en dessous de ce qu'il était à l'époque, mais l'essence est quand même plus chère. Alors je rappelle quand même que l'essence reste quand même quelque chose de très important dans le cadre de l'inflation, même si on veut faire comme si on ne l'entend pas. Quand vous faites 2 ou 3 fois le plein d'essence par mois et puis que le prix varie de plus ou moins 10%, ça risque de faire un tout petit peu bizarre, mais enfin pour l'instant, on est plutôt serein du côté des États-Unis. On pense que la Fed a vaincu l'inflation et que finalement cet effet pétrole ne sera pas aussi important que ça. Affaire à suivre néanmoins, puisque M. Powell a donc été très clair. Il va suivre encore attentivement tous les chiffres économiques qui pourraient lui donner des indications pour la suite. Et il continue aussi à dire que l'inflation doit aller dans la fourchette de 1 à 2% et que tant qu'on n'irait pas là, rien ne changera. Ensuite, les taux pourraient rester quand même élevés pendant un bon moment pour calmer cette économie qui a l'air vraiment très très forte aux États-Unis, et je dis bien aux États-Unis. À partir de là, on pourra voir si on pourra recommencer ou commencer à parler de baisse des taux à cause d'un ralentissement économique. Mais ça, on parle vraiment de l'été prochain dans le meilleur des cas. Deuxième banque centrale qui a parlé, c'est la BCE. Alors la BCE avait un discours avant le meeting très au quiche en disant « on va continuer à monter les taux, c'est la priorité, on se fout du reste ». Le discours a un petit peu changé, ils ont effectivement monté les taux de 0,25%, mais Mme Lagarde a quand même exprimé très clairement que dorénavant, ils allaient être data dependent, c'est-à-dire qu'ils allaient faire comme la Fed a fait au mois de juin, ils vont suivre attentivement les chiffres économiques afin de savoir comment ils doivent se positionner pour la suite. Donc pour l'instant, ça a l'air plutôt encourageant. On a vu les chiffres de l'inflation qui sont sortis en France ou en Allemagne, on voit que ça se calme aussi gentiment. Donc là aussi, on a l'impression que les banques centrales sont en train massivement de gagner leur affaire. Et d'ailleurs, le discours qui était quand même relativement au quiche de la BCE de jeudi a permis au marché européens d'exploser sur la nouvelle. On l'a vu encore sur la France ou sur l'Allemagne. L'Allemagne qui termine par exemple sa semaine au plus haut de tous les temps tout de même. Et puis la troisième banque centrale qui parlait cette semaine, eh ben, c'était les Japonais. Alors les Japonais, d'habitude, on s'en fout cordialement, mais comme depuis quelques semaines, le Japon est redevenu the marché où il faut être, the marché à suivre, parce que ça fait quand même 35 ans qu'on s'en fout, donc il est temps d'y revenir. La BOJ a annoncé que, vu qu'il y avait quand même une espèce de semi-réveil de l'inflation, ils étaient en train d'être un petit peu plus attentifs sur les taux. Donc ils conservent leur fourchette de surveillance entre moins 0,5 et plus 0,5%. Mais si tout d'un coup ça démarrait un petit peu trop haut, ils n'excluaient pas la possibilité de monter les taux pour casser tout de suite cette inflation. Le marché n'a pas beaucoup aimé cette réaction, mais néanmoins c'est assez logique. Il serait quand même stupide de ne pas anticiper ce que nous on a déjà vécu en Occident depuis 18 mois. Et puis quand on regarde ce qui s'est un petit peu passé cette semaine, eh bien on doit aussi parler des résultats. Alors il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de résultats. On va y revenir surtout sur la Suisse, mais en tout cas aux États-Unis, il y a eu beaucoup de résultats. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette semaine, tout ce qui était semi-conducteur était plutôt encourageant. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres de Meta ont été adorés, que les chiffres de Snapchat ont été détestés, que Microsoft a sorti de très bons chiffres, mais par contre, comme ils ont annoncé qu'ils allaient investir beaucoup d'argent pour développer l'intelligence artificielle, eh bien mettre « je vais utiliser beaucoup d'argent pour développer l'intelligence artificielle » dans la même phrase, ça ne plaît pas, parce qu'on aimerait bien qu'on développe l'intelligence artificielle, mais sans dépenser d'argent. Donc comme ils ont annoncé que ce serait long et coûteux, eh bien le marché n'a pas aimé, Microsoft était un petit peu en souffrance. Mais ça n'a pas suffi, parce que globalement, eh bien on est plus ou moins à 76-78% de boîtes qui publient mieux que les attentes sur ce trimestre, donc ça va très bien. On avait un petit peu peur qu'on ait tendance à avoir estimé un petit peu ça trop haut, trop vite, et puis finalement, on s'en sort relativement bien. Les attentes sont hautes, mais les sociétés sont, comment dire, en ligne par rapport à ces attentes-là, et puis la plupart sont plutôt optimistes. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques commentaires négatifs sur la suite, sur l'avenir qui serait très compliqué, ça n'a pas été très apprécié. Mais l'un dans l'autre et en majorité, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc on peut s'attendre à que ça continue à se passer plutôt bien les prochaines semaines. Puisque l'un dans l'autre, on voit mal comment tout d'un coup une Apple pourrait décevoir la semaine prochaine. Sachant que cette semaine, on a déjà eu plutôt tout le monde qui a satisfait le marché. Et c'est vrai, ce qu'il faut retirer comme bilan de cette semaine, c'est que l'un dans l'autre, on a vraiment ce sentiment quand on lit un peu à droite à gauche, qu'on écoute un petit peu les experts qui sont quand même très négatifs depuis des mois et des mois. On voit que quand même, le marché avait tendance à vouloir s'essouffler un petit peu et on pouvait commencer à vouloir croire que potentiellement, il y avait une correction possible à venir sur les marchés. On ne parle pas non plus de 15%, mais si le marché avait baissé 3-4% sur la publication des résultats, sur les déceptions des banques centrales, on aurait presque été content. Mais rien à faire, ça continue à aller super bien et le marché est en toute grande forme. Il y a des marchés qui sont en meilleure forme que d'autres, effectivement, mais l'un dans l'autre, ça se passe vachement bien, et pour être franc, on n'aurait pas toujours cru que cette fin de semaine du 30 juillet 2023 puisse être aussi limite euphorique. Alors ça n'explose pas de 15%, mais on voit un enthousiasme et on voit une confiance absolument incroyable sur les marchés. Mais il est vrai que les tendances sont positives et on dit qu'il ne faut pas aller contre les tendances. D'ailleurs, si on parle de performance, les performances de la semaine, donc vous le voyez, le pétrole en hausse de 4,67% sur la semaine. J'ai pas envie de le répéter en permanence, mais puisque l'on parle d'inflation, c'est pas bon et c'est pas forcément très très rassurant. N'oublions pas quand même qu'au mois de juin, le prix moyen du baril était quand même quasiment 15$ plus bas. Ça risque quand même de se ressentir en août, à moins qu'il nous fasse un truc un peu spectaculaire. Mais pour l'instant, le baril est extrêmement impressionnant et très très fort, peut-être trop fort. Et ça pourrait peut-être avoir des conséquences sur la fin. Je ne le dirai plus, mais je l'aurais dit. Ensuite, on a un rebond de Hong Kong et de la Chine. Alors le rebond de Hong Kong et de la Chine, il est principalement dû au fait que le gouvernement chinois a lancé un stimulus, surtout pour l'immobilier, mais ça a rassuré un peu les investisseurs, comme quoi ils pourraient potentiellement venir avec un stimulus sur le reste. Et donc, du coup, on a une très bonne performance des marchés asiatiques. De ce côté-là, le Philadelphia Semiconductor Index, 4,14%, je vous l'ai dit, c'était une des bonnes surprises de la semaine, puisque la semaine précédente, on avait eu 2-3 déceptions dans le secteur et on avait un peu peur, mais finalement, ça se passe bien de ce côté-là. Et puis autrement, le reste, eh bien, vous le voyez, le DAX qui finit en hausse de 1,8%, mais qui est au plus haut de tous les temps. Le Nikkei qui, malgré son histoire de banque du Japon, termine en hausse de 1,43%. Et puis, les losers de la semaine, eh bien, c'est un peu les trucs défensifs, argent, or, et puis le Bitcoin, mais tout le reste va plutôt pas mal, même si c'est pas vraiment euphorique sur certaines choses. On y reviendra tout à l'heure en parlant un petit peu de l'aspect technique. Si on regarde les performances du SMI, la meilleure performance c'est Logitech, on va en reparler. UBS qui a payé une amende, et puis gros, globalement après c'est pas monstre spectaculaire. Mais l'un dans l'autre, ça montouille gentiment. Rush qui termine en étant le loser de la semaine, malgré des chiffres qui étaient corrects. On va y revenir également. Novartis, on va dire que c'est des prises de profit après leur excellente semaine précédente. Et puis l'un dans l'autre, le SMI ne fait pas une performance spectaculaire sur la semaine. Donc ça se ressent un peu à l'intérieur et avec ses composants. Puisque l'on parle du technique, voici donc le SMI. Donc vous voyez encore une fois une relativement belle semaine. Pas explosif non plus, mais on a terminé quand même, et ça c'est à signaler, nettement au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours et des 50 jours, ces deux moyennes mobiles qui sont là, on le voit une ici et une là, donc c'est plutôt encourageant pour l'instant. La tendance haussière est clairement affirmée sur le SMI pour le moment. On se demande ce qui va être capable de tracter l'indice beaucoup beaucoup plus haut, sachant que tant que Rush ne veut pas décoller, ça va être quand même un petit problème à surveiller. Mais l'un dans l'autre, plutôt bonne semaine sur la Suisse, même si c'est pas trop explosif. Le CAC 40 qui est donc définitivement sorti de sa tendance baissière, et ça c'est une bonne nouvelle, qui termine la fin de la semaine en dessus de cette tendance que nous avons ici, c'est encourageant. Il faut aussi noter cependant que le petit trou qu'on a eu durant la semaine ici, c'est à cause des chiffres du luxe, puisque l'on voit aujourd'hui que quand on regarde les résultats de LVMH, c'est ce qui a pesé principalement dedans. LVMH qui représente quand même 15% ou pas loin du CAC 40. LVMH qui a publié des chiffres décevants, pression sur les marges. On voit qu'il y a des ralentissements au niveau de la consommation des produits LVMH. Mais alors, surtout étonnamment, c'est pas en Chine que ça impacte le plus, c'est aux États-Unis, ce qui est assez marrant, puisque quand on voit l'économie américaine aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce possible que finalement tout est si bien, mais que les mecs arrêtent de dépenser et que les chiffres de vente de produits de luxe sont en train de ralentir. Il y a un petit problème qui ne joue pas dans la vision qu'on a des États-Unis de l'extérieur et des chiffres liés au luxe. Donc on peut se poser quelques questions, mais ça on aura peut-être des réponses plus tard. Chose est-il que le CAC 40 termine en hausse. Pas une grosse hausse, mais on est dehors de cette tendance baissière. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Deutschland Uber Alles, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais ça casse. Ça a cassé, donc définitivement, le DAX a cassé ses plus hauts historiques. Il termine sa semaine ici, au plus haut de tous les temps. La route est ouverte pour aller chercher plus haut. Est-ce qu'on aura la force d'y aller? Ça dépendra bien évidemment des résultats, des chiffres économiques comme d'habitude. Mais en tous les cas, eh bien, on voit que ce marché a surpris quand même tout le monde. Parce que quand on a vu la tronche qu'on avait il y a quelques temps ici, avec ses multiples échecs, eh bien franchement, c'était courageux de penser qu'on pouvait tout casser à la hausse et repartir à l'assaut. Surtout quand on voit les chiffres économiques en Allemagne, qui même si on voit un ralentissement de l'inflation, eh bien c'est pas non plus Byzance. Et puis pour ce qui est du S&P 500, eh bien vous voyez là aussi, hein, alors nous on avait cette tendance haussière, ce canal haussier qui passait par là et par là. Donc clairement, on termine en dessus. En plus, on est venu se reposer dessus durant la semaine pour finir presque au plus haut. Donc clairement, on a une accélération de la tendance sur le S&P 500 qui est plutôt encourageante. J'ai envie de dire, c'est vraiment le bull market qui s'affirme et qui s'installe. On va aller chercher clairement ces prochains jours les chiffres, pas les chiffres, mais les niveaux que l'on voit ici. Hein, donc ce top qu'on a fait là en mars 2022, on va aller chercher les 4600 et des poussières là-dessus. On n'est pas très loin, je pense qu'on va aller chercher ça, puis ensuite on aura la porte ouverte pour aller chercher les plus hauts historiques sur le S&P 500. Au niveau du Nasdaq, eh bien c'est pareil, un petit peu moins fringant au niveau du Nasdaq, puisqu'il y a eu quand même 2-3 pêches durant la semaine. Microsoft a pesé un petit peu sur le Nasdaq, mais néanmoins, on reste dans notre tendance haussière. Sur le Nasdaq, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas celui qui est le plus impressionnant sur la semaine. Mais on voit qu'on essaie de consolider par là autour. Techniquement, oui, on peut redescendre chercher les bas du range. Mais pour chercher les bas du range, il va falloir qu'Apple nous fasse une grosse déception la semaine prochaine. Et pour l'instant, on reste dans cette tendance haussière. Là aussi, don't fight the trend. Et le Dow Jones qui a mis fin cette semaine à 13 séances ou 13 séances de hausse consécutives. Mais qui termine quand même relativement bien la semaine, hein, vous le voyez. Rien à dire, le breakout fait, confirmé, affirmé sur le Dow Jones. On voit assez mal pour l'instant, en plus qu'on a un regain d'intérêt sur tout ce qui est value, on voit assez mal comment l'indice pourrait aller beaucoup, beaucoup plus bas. Donc bah, ça continue, il ne faudrait pas qu'on revienne en dessous de ce support-là que je viens de tirer, en dessous des 35 000. C'est le chiffre de base qu'il faut regarder dorénavant sur le Dow Jones, c'est 35 000 qui nous permettra peut-être ou pas de revenir dans une tendance un peu moins raide, mais le risque revient de perdre 1 500 points sur le Dow Jones et il faudra un peu plus qu'un CPI 0,2% en dessous des attentes. Donc à surveiller attentivement, mais pour l'instant, franchement, si je devais faire un bilan de cette semaine, c'est que compte tenu de tout ce qui s'est passé, compte tenu de tout ce qu'on a dû digérer, eh bien, ça va vachement bien. Au niveau des actions suisses de la semaine, eh bien, on va faire un tour rapidement sur toutes celles qui ont publié, en gros, pas toutes, mais une bonne partie. On commence tout de suite par Julius Baer qui a publié grosso modo un bénéfice net en hausse de 18%. Très bonne surprise. Des net new money, du nouvel argent frais qui est rentré dans la banque massivement ces derniers temps au-dessus des attentes. On peut imaginer qu'avec l'histoire Crédit Suisse, ça a justifié ça explique certaines choses. Mais donc, très bon résultat là-dessus. Le management annonce qu'ils vont continuer à se concentrer sur la croissance organique, donc à engager massivement des conseillers à la clientèle ou des gérants de fortune, comme on les appelle selon l'endroit où on est. L'un dans l'autre, là aussi, on peut comprendre parce qu'avec ce qui va se passer dans la restructuration UBS Crédit Suisse, il y aura certainement des gens qui vont se retrouver dehors et peut-être qu'il y aura de l'occasion d'essayer de récupérer des gens pour faire revenir encore plus de net new money chez Julius Baer. Le graphique se passe de commentaires, hein, vous voyez, la dernière fois, on avait eu cette déception qui nous avait emmené jusque sur la moyenne mobile des 200 jours. Aujourd'hui, on casse massivement à la hausse pour aller rechercher les 64. Ce sera le prochain test à faire ou à confirmer, mais en tous les cas, les bons résultats et l'effet positif de la fusion UBS Crédit Suisse, puisqu'on peut dire que pour eux c'est un effet positif, devrait permettre au titre de remonter en direction potentiellement des 67, 70 ces prochains temps. Il y a eu quelques upgrades aussi à cause de ça, mais on voit que pour l'instant, en tout cas, la chose qui était positive, pardon, c'est qu'on a tenu cette moyenne mobile des 200 jours qui est un peu le dernier rempart, comme souvent, et que ça nous dégage un petit peu. Là, il y a un croisement des moyennes mobiles 50 et 200 jours qui, techniquement, donne un signal négatif, mais on voit qu'il y a déjà une inversion qui est en train de se faire. Donc voilà, c'est un gros mouvement qui a été fait. Il va falloir surveiller si on est capable de confirmer ces prochains jours. Ensuite, SGS, alors résultat revenu en hausse, mais effet de change négatif. Et l'un dans l'autre, le management, pas le gouvernement, le management a revu à la hausse ses targets pour 2023. Donc ça se passait relativement bien lors de la publication. Voilà, c'est pas le truc le plus fun de la semaine, mais il faut quand même le savoir. Vous voyez que l'effet d'annonce sur SGS a été relativement bien salué par la critique, et puisqu'on revient du fond du trou pour aller en direction de la moyenne mobile des 200 jours ici, à surveiller si on sera capable de la casser pour envisager une inversion des moyennes mobiles et se dire que peut-être il y a quelque chose qui est en train de se passer chez SGS. Meyer Burger a annoncé une perte d'exploitation potentielle de 42 millions de francs suisses sur le premier semestre et ils annoncent la construction d'une usine de création, de construction, de fabrication de cellules photovoltaïques à Colorado Springs aux USA. Le marché n'a pas trop aimé l'histoire de la perte, donc le titre s'est fait déglinguer, a perdu 8% et revient sur de nouveau, encore une fois, sur le bas du range en direction de la moyenne mobile des 200 jours. Vous le voyez, j'avais fait pas mal déjà de gribouillis à l'époque où je vous montrais que chaque fois qu'on revenait sur la moyenne mobile des 200 jours, eh bien on remontait. Alors là, on l'a cassé à la baisse, il va falloir voir si on est capable de remonter. Quand on voit un petit peu les annonces, c'est pas non plus monstre catastrophique, mais cette perte a gêné les investisseurs. Néanmoins, on est clairement sur un support à surveiller attentivement. Peut-être qu'il y a un truc à jouer ces prochains temps. Et si on va chercher la tendance de fond, la trend line qu'on a ici, vous le voyez, eh ben là, on a une espèce de continuité de la trend line qui repart ici toujours. Donc, on a un gros support sur Meyer Burger qui se situe autour des 50 centimes. Pour ceux qui ont envie de jouer quelque chose, je pense que peut-être il y a un rebond ces prochains temps à espérer parce que la thématique reste porteuse et en même temps, encore une fois, même si ça a déçu, on peut quand même pas en vouloir aux sociétés de vouloir investir pour essayer de gagner plus d'argent à un certain moment. Je passe directement par le chart sur Logitech. Le mouvement de la semaine passée se passe de commentaires. Explosion du titre sur la publication des résultats. Alors pour faire simple, il n'y a rien de très sexy au niveau des résultats, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres sont moins pires que prévu. Alors moins pire que prévu, c'est quasiment 13% de hausse sur la journée. Techniquement, ça ressemble plus à rien. Le graphe est bourré de trous dans tous les sens. Alors pour essayer de prendre des paris là-dessus, franchement, c'est extrêmement compliqué. Vous voyez tous les gaps qu'on a laissés. Celui-ci est comblé, donc c'est déjà une bonne chose. Celui qui est là, eh bien, il n'est pas encore. Oui, si, il est encore. Ouais, mais il est comblé aussi. Techniquement, c'est plutôt encourageant, mais par contre, alors effectivement, eh bien, on se raccroche à pas grand-chose. Il faut quand même noter qu'il y a eu pas mal d'upgrades au niveau des price targets cette semaine. Et puis qu'en même temps, la société, en toute fin de semaine, a encore annoncé un rachat d'actions, un share buyback de 1 milliard de francs suisses. Roche a publié ses résultats. Roche a toujours le Covid. Quand je dis Roche a toujours le Covid, c'est qu'il continue à avoir les mêmes problèmes qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société va relativement bien, même si elle accuse une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 8% ou quelque chose comme ça. Roche est toujours dans l'esprit des gens une boîte qui a profité de la pandémie du Covid et qu'aujourd'hui, finalement, ce n'est plus un business central, forcément, puisqu'il y a pour l'instant plus de Covid. Et donc du coup, eh bien, le bon Roche, eh bien, se traîne, la société se traîne et les gens se disent oui, mais ils souffrent parce que finalement, il n'y a plus de Covid. Mais Roche ne fait pas que du Covid non plus. Ils ne faisaient pas que du Covid avant. Ils ont une vie avant le Covid et ils auront une vie après le Covid. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on a une perception au niveau de Roche qui est toujours extrêmement, pas négative, mais très axée sur le Covid. Et il faudra que tout ça se digère un petit peu. Les chiffres n'étaient pas extraordinaires. Les effets de change ont pesé également sur l'ensemble des résultats. Donc voilà, c'était moins sexy que Novartis la semaine dernière. Résultat, bah, Roche termine en lanterne rouge de l'indice cette semaine. Alors graphiquement, ça change pas grand-chose au niveau du bon Roche. On voit qu'on est en train de construire une tendance haussière pour l'instant. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins on l'a tenue, cette petite tendance haussière. Difficile de savoir à quel moment on va commencer à retrouver des couleurs. En ce qui me concerne, je continue à persister dans mon obsession sur le titre en disant que c'est quelque chose que bah, moi j'accumule régulièrement quand je peux, j'en achète un petit peu et je me dis je baisse mon prix moyen et le jour où elle sera de nouveau en odeur de sainteté parce qu'elle sera de nouveau en odeur de sainteté, eh bien on pourra espérer que ça reparte gentiment en direction des 320 et 330, c'est de la musique d'avenir. Mais il suffit de pas grand chose pour que le sentiment vienne à tourner sur cette société qui reste quand même un fleuron de la pharmaceutique en Suisse. Et donc voilà, on va pas tergiverser trop longtemps sur l'histoire. Mais Roche n'a pas publié des résultats méga sexy et continue de souffrir de son image de Covid. Nestlé a cependant sauvé le monde la semaine dernière, plus 2,6% sur la journée où ils ont annoncé les résultats. Ils ont annoncé grosso modo un chiffre d'affaires et une rentabilité qui était améliorée. Les prix globalement les ont améliorés et les ont aidés aussi. Et la direction a augmenté également les targets pour le reste de l'année. Donc, que demande le peuple? Nestlé a soutenu l'indice et a permis aussi au SMI de relativement bien finir sa semaine, mais à Nestlé aussi. Voilà, si vous regardez le chart sur Nestlé, eh bien, vous voyez qu'on revient gentiment dans notre tendance haussière qu'on avait cassée récemment. Et maintenant, il faudra qu'on confirme, il faudra qu'on revienne en dessus ici et puis qu'on puisse repartir gentiment à la hausse. Néanmoins, ce bon retournement de situation était rassurant. On voit qu'on est allé chercher les bas autour des 100 balles. Et puis que maintenant, on essaie de reconstruire. Donc, ce n'est pas non plus de l'intelligence artificielle, ce n'est pas non plus le titre le plus sexy de la planète, mais ça revient dans la bonne direction. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette semaine suisse et dans le reste du monde également. Grosso modo, c'était une grosse semaine. Là, on va rentrer, en tout cas pour la Suisse, sur une petite semaine parce que lundi, c'est ouvert, mais bon, c'est entre deux puisque le 1er août, c'est férié et le 2 août, il faudra récupérer le jour férié. Donc, petite semaine qui nous attend en Suisse. Ça sera aussi une petite semaine en termes de morning bull puisque je vais devoir sauter quelques jours à cause des jours fériés. Néanmoins, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager et on se retrouve demain matin pour faire un brief très rapide sur les marchés financiers. Avant 2 jours de congé, et très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.